Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Élise Gottfarb et Fred Hermel. Et on va démarrer tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Emmanuel Macron peut-il sauver sa candidate aux européennes pour relancer la campagne de Valérie Ayer, qui représente le parti Renaissance aux élections européennes? Le président de la République a prononcé un discours ce matin à la Sorbonne, mais pour le prof d'économie DGG, Frédéric Farah, peu de chances que cette prise de parole aide la candidate.
Emmanuel Macron parle trop. Donc déjà premier élément, il va encore parler. Je suis pas sûr que ça va aider cette candidate. Je crois même que ça va la plomber parce que je crois que les Français, c'est pas qu'ils sont tellement marre de Madame Ayer parce qu'ils ne la connaissent pas et ils sont pas prêts à la connaître d'ailleurs. Mais je crois qu'ils n'en peuvent plus de la parole présidentielle. Il va redire à peu près la même chose. En plus, il revient dans le même endroit.
C'est un remake.
En plus, c'est terrible parce que j'ai de la peine pour elle parce que qu'est-ce qu'elle va devoir faire après le discours? Faire juste le relais de la parole pour dire
le service
le président
après-vente.
Il a dit ça, etc. C'est le moment d'Arty, service après-vente. Donc, bon, très bien, mais je pense que... Est-ce qu'il peut se taire de temps en temps?
Oui, il vient juste de le faire sur CNews d'ailleurs, en direct, de relayer la parole du président de la République. On sent pas que c'est une super aide quand même, Thierry Moreau.
Et je pense que ça n'a pas vocation à sauver la candidate Ayer qui va mener une campagne, et on sait, les sondages, les tendances sont maintenant assez claires sur le résultat qu'on va avoir le 9 juin. Non, je pense que ce qui est terrible sur les discours sur l'Europe, c'est que au mieux, les gens trouvent que c'est très lointain et c'est pas du tout dans leur préoccupation de leur fin de mois, de l'inflation, du chômage, de trouver du travail ou de la retraite. Donc déjà ça. Et au pire, ils considèrent l'Europe comme quelque chose de néfaste pour leur vie quotidienne. Donc, de toute façon, je pense que même si tant est qu'il y ait eu cette idée de vouloir sauver la candidate, c'est de toute façon peine perdue parce que ça ne changera pas la donne.
C'est gênant quand même un président de la République qui, quelque part, aide la candidate d'un parti, même si c'est le sien.
Alors je sais pas si c'est décompté dans les
non, ça sera pas décompté.
Mais non, mais
voilà, mais après il est président de la République. Il y en a un, il est président de la République, donc c'est normal que ce soit pas décompté. Enfin, je veux dire, c'est
c'est
la parole présidentielle.
Si tu soutiens une candidate,
ça, ce sont les spécialistes de l'Arcom qui vont en décider.
C'est très pointu. Ça n'est pas décompté.
Mais voilà, après, moi je trouve que c'est un peu dur de tirer comme ça sur l'ambulance entre guillemets. Ayer, parce qu'en fait, elle est allée au charbon parce que personne ne voulait y aller dans la majorité.
C'est ça qui est problématique.
Donc, il faut l'aider un petit peu.
Elle a du mérite.
Elle a du mérite parce que on avait parlé à un moment de Bruno Le Maire, etc.
Olivier Véran,
mais personne ne voulait y aller parce que chacun avait peur de se brûler les ailes parce que c'était perdu d'avance. Parce qu'aujourd'hui, le seul objectif de la liste Renaissance, Renew, comme ça c'est en Europe, c'est de au moins terminer deuxième et pas troisième derrière le PS. Parce que là, il y a un vrai risque. Parce que le Rassemblement National, ça va être une victoire écrasante.
Mais je vais même te dire pire. Si les gens ont refusé d'être sur la liste, d'être tête de liste aux européennes à Renaissance, c'est parce que c'est un parti qui aime un peu la fame, qui aime le pouvoir. Et quand t'es aux européennes, tu tombes dans l'oubli pendant tout ton mandat.
Mais c'est
tu
pas
ne sais
ça. C'est parce que le maire voulait pas prendre le risque.
Voilà,
c'est parce que tous ces gens-là voulaient pas se griller.
En vrai, c'est dans la majorité.
Mais tu crois vraiment que la première idée d'Emmanuel Macron était Valérie Ayer?
Non, ça c'est sûr que non.
Je veux bien le croire. Mais je pense que les gens qui ont refusé, c'est pas parce que c'était peine perdue, c'est parce qu'ils ont pas envie de tomber dans l'oubli et de plus passer aux infos.
J'en suis convaincue. Elle a raison.
Il y a que Raphaël Glucksmann qui a réussi à faire de son mandat aux européennes un truc qui le rend stylé. En fait, aujourd'hui, Stéphane Séjourné, avant d'être à Orsay, personne savait qu'il était député européen, en fait.
Non.
Parce que quand t'es député européen, on t'oublie, on te connaît plus, t'es à Bruxelles. Qui savait qu'elle était députée européenne? Qui savait qui c'était? Donc, c'est un risque à prendre.
Encore,
aucune grosse tête de Renaissance ne voulait y aller en réalité. Est-ce que c'est tombé dans l'oubli?
Les GG ce matin sur RMC. Sommes-nous vraiment au niveau dans l'accueil des touristes en France? Bernard de la Villardière, que vous connaissez tous, le présentateur de l'émission Enquête exclusive sur M6, a poussé un coup de gueule hier sur Twitter pour dénoncer l'accueil très virulent qui lui a été fait à l'aéroport de Roissy par de faux chauffeurs de taxi. Il s'en expliquait ce matin chez les GG.
Ce qui se passe depuis quelques années me concernant, c'est que chaque fois que j'arrive dans ce pays, je rentre chez moi, après des voyages à l'autre bout du monde, et je suis souvent agressé à Roissy, enfin verbalement bien évidemment, par des gens qui sont là, des faux taxis souvent. On se demande d'ailleurs ce qu'attend le Roissy Charles de Gaulle, la société, pour faire un peu le ménage. Je pense qu'il y a une police anti-taxi, faux taxi, mais ils sont pas assez nombreux, ils sont quelques dizaines. D'ailleurs, les vrais taxis s'en plaignent régulièrement. Et je passe. Ah oui, la Villardière, islamophobe, raciste, machin, etc. Et avant, c'était quand je faisais 100 mètres et j'entendais vaguement derrière moi. Et aujourd'hui, c'est ils viennent face à moi pour m'insulter. Et donc, je ne l'admets pas. Et je l'admets d'autant moins, que je rentre de pays dans lesquels j'étais en Équateur. Enfin, voilà. J'ai l'impression que je prends plus de risques en France aujourd'hui que dans d'autres pays où je vais depuis des années.
Et en dehors des insultes, c'est vrai que les faux taxis, on va dire, à l'aéroport sont extrêmement agressifs et de plus en plus. À un moment, ça s'était calmé parce qu'il y avait effectivement la police qui régulait. Mais aujourd'hui, quand ils te demandent taxi et tu dis non, je vais faire la queue pour avoir un vrai taxi et tu te fais enguirlander de manière très virulente et c'est extrêmement désagréable.
Oui, alors. Fred Hermel. C'est à peu près dans beaucoup de pays du monde, hein, quand même, ça. Les faux taxis.
Mais c'est insupportable. Taxis.
C'est insupportable. Alors, moi, j'adore quand même. Les taxis.
Pense pas, t'as les vrais taxis qui attendent depuis 2 heures, les pauvres.
Non, mais ça, c'est le conseil qu'on peut donner à n'importe quel voyageur. Ne jamais suivre quelqu'un qui est dans le terminal.
Mais ils te mettent la pression. Ils te disent, regardez, madame, il y a une
soirée. Si c'est la pression,
il y a une heure de file d'attente et tu dis non. Et toi, t'es poli. Tu dis non, merci, monsieur. Ça va aller. Merci, je préfère faire la queue.
Je dis, j'ai vraiment une tête de con comme ça. Vous pensez m'avoir? Non, mais ça, les faux taxis, ça existe pas à Madrid, c'est.
Mais là, ils te mettent la pression.
Mais bien sûr, je sais. Et moi, je suis d'accord avec Bernard de la Villardière. Que fait la police? Parce qu'en fait, et quand j'en parle, quand on en parle avec les taxis disent, on ne comprend pas. Oui. Nous-mêmes, nous identifions, ce sont toujours les mêmes.
C'est assez facile d'identifier.
Voilà. Et la police n'intervient pas. Donc, peut-être qu'elle intervient et que, comme toujours avec la super justice qui est en France, le lendemain, ils sont de nouveau là.
Est-ce que vous connaissez vous avez entendu parler du syndrome de Paris?
Non, c'est quoi?
C'est hilarant. J'ai découvert ça en allant au Japon. En fait, les Japonais, il y a un phénomène qu'ils ont développé qui s'appelle le syndrome de Paris. C'est-à-dire que plein de touristes japonais, ils viennent en France avec en tête plein d'images d'Épinal en se disant waouh, je vais voir que des poètes, des gens avec des bérets, la Tour Eiffel, des baguettes sous le bras. Et ils arrivent et ils se font genre voler leur appareil photo, embrouillés par des faux taxis et ils font une dépression. Et en fait, mais c'est très grave, c'est comme les Français ont la même chose en Inde. Ça s'appelle le syndrome. Je sais plus comment.
New Delhi.
Quand on va en Inde, on est tellement pas confronté, nous par exemple, à toutes les odeurs et à tous les bruits, qu'on fait des dépressions. Et ben les Japonais en France, très fréquemment, font des dépressions quand ils rentrent au Japon parce qu'ils étaient prêts à avoir.
Très simple, c'est qu'il n'y a pas de délinquance au Japon.
Mais c'est très connu.
Ils n'ont pas de réflexe d'autoprotection.
Mais le syndrome de Paris est très connu.
Ce qui est dingue au Japon, c'est que les gens laissent leur sac couvert, tu laisses ton portable, ils te ramènent. Donc en fait, ils n'ont pas ce réflexe d'autoprotection que nous avons. Donc ils se font avoir par tout le monde ici.
Mais c'est vrai que c'est quand même un choc culturel quand tu arrives dans un aéroport de Paris. Alors l'aéroport, ils sont plutôt bien, mais alors les alentours de l'aéroport.
En fait, le truc, c'est qu'avec Paris,
problème,
on s'attend.
Le problème, c'est que Bernard David Lardière, il mélange plusieurs trucs. Il mélange son image, qui n'est pas très bonne, et il se fait insulter. Ça, c'est inacceptable pour ses opinions, et ça, c'est pas normal. Il mélange le problème des faux taxis sur lequel on ne lutte pas assez, parce que je crois qu'ils sont effectivement quelques dizaines, ce qu'on appelle les bourgs, hein, c'est-à-dire ces compagnies de flics qui sont censées justement surveiller et éliminer les faux taxis. Et il mélange aussi l'accueil en France, qui n'est pas tip-top. Et là, on peut élargir ça au l'accueil dans certains cafés, etc., etc., où on n'est pas super bien accueilli. Donc voilà, c'est un petit peu un joyeux mélange de tout ça sur l'image de la France à l'étranger qui est à redorer.
Non, mais là,
avant les JO.
On est quand même à 3 mois des JO.
Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire.
Je trouve ça hallucinant qu'à 3 mois des JO, on n'ait pas encore fait quelque chose contre ce fléau des faux taxis. Encore une fois, à côté, t'as des taxis qui attendent des heures sur le parking, il y a des VTC, etc. Et à côté de ça, t'as des taxis.
Pendant longtemps, ont bénéficié d'une image pas terrible où la carte bleue marchait jamais, où ils ne voulaient pas vous emmener dans certains quartiers de Paris parce que ça les arrangeait pas en termes de courses de retour, etc. Alors, ils ont beaucoup fait d'efforts
ces derniers temps,
notamment depuis qu'il y a Uber, ils ont beaucoup amélioré, mais ils pâtissent aussi de cette image-là qui fait que de temps en temps, les gens ont peut-être envie d'aller voir ces faux taxis qui leur proposent des tarifs soi-disant plus intéressants, et en fait, c'est une arnaque.
Bah évidemment que c'est une arnaque. En plus, tu sais même pas s'ils sont assurés ni rien.
Voilà, enfin, bien.
Les GG ce matin sur RMC, votre nom de famille peut-il vous aider à réussir dans la vie? Des chercheurs américains ont étudié les notes reçues par les élèves d'une université et ils en ont conclu que la première lettre de votre nom de famille pouvait avoir une très grande influence. Les explications de Martin Bourdin ce matin.
Ceux dont le nom commence par A, B, C ou D sont mieux notés que ceux qui arrivent en fin d'alphabet. Différence qui disparaît quand les copies sont corrigées dans un ordre aléatoire. La raison, elle est simple, c'est que plus les correcteurs progressent dans la correction, plus ils sont sévères. Voilà. Donc les 10 premières copies reçoivent même 3,5 points de plus sur 100 que celles qui arrivent en fin de pile. Alors c'est sur 100, mais bon,
c'est quand même pas sur 20.
Ça fait quand même pas mal de points.
Bon, bah, nous, Rémi, on est bien. Barré, oui. Denis, ABCD.
Ouais, on est un peu moins le
on est bien.
Ouais, et Zinedine Zidane, il a dû se faire saquer à l'école, alors. Hein.
Oui, c'est... Ouais,
bah, ça l'a pas trop dérangé.
Oui, voilà, c'est ça, oui. Oh, j'ai envie de vous dire, il a réussi quand
il
même.
Il a réussi, oui.
Mais non, bah, c'est vrai, parce que moi, je suis prof dans une école.
Ils disent,
et c'est vrai que pardon. Toujours au moment des jurys, le dernier groupe, j'en peux plus, en fait. Ça fait 4 heures que je suis là. Et je suis plus sévère.
Mais moi, je les mélange, les copies, j'ai des copies à corriger. Et je les mets en fonction du moment à laquelle l'élève a rendu sa copie plutôt que d'être classé par ordre alphabétique. Ouais. Ce qui me donne déjà une indice sur le fait qu'il ait travaillé vite ou pas.
Mais après, ça revient à cette question. Est-ce que le nom de famille peut influencer votre réussite dans la vie?
C'est-à-dire
que,
évidemment.
Si on s'appelle Rothschild, ce sera plus facile,
bah,
non?
Oui. Bah oui. Mais alors attends, tu dis ça, mais ou pas. Parce que justement, tu peux avoir. T'envoies ton CV, tu t'appelles Rothschild. Bon, bah, tu peux avoir un recruteur. Déjà, s'il est d'extrême gauche, bon, bah, il te prendra pas. Déjà, donc ça, c'est le truc. Et puis aussi, tu peux dire, attends, Rothschild, il peut se trouver un stage, je vais plutôt prendre un autre nom de famille, parce que le petit doit être moins favorisé dans la vie. Donc en fait, tu peux aussi avoir des préjugés, je pense, quand tu es quand
tu as un préjugé.
Et tous les Rothschild, un nom à trois particules.
Et tous les Rothschild ne sont pas de la famille Rothschild.
Oui.
C'est vrai. Ben, non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je connais une fille qui s'appelle Rothschild, elle n'est pas riche, elle n'a pas rien à voir avec la famille Rothschild.
Mais elle a dû bien se faire chambrer quand même.
Bah, il suffit de voir aussi sur l'accès au logement. Quand tu as un nom de famille à consonance arabe, tu as beaucoup plus de mal aujourd'hui à trouver un appartement que quand tu t'appelles Dupont ou moi, à cause de mon nom de famille qui est à consonance juive, ceux qui arrivent à déceler que c'est une consonance juive, je me suis pris plein de remarques en mode de toute façon t'auras pas de mal à payer ou alors ah ouais, et mon premier patron quand je lui ai demandé mes tickets resto, il m'a dit mais t'en as pas besoin.
C'est pas vrai.
À cause de mon nom de famille, alors qu'on se connaissait pas du tout. C'était assez marrant d'ailleurs.
Ouais, alors que
c'est pas marrant.
Non, c'est pas marrant, c'est horrible. Non,
c'est horrible.
Et aujourd'hui, pour louer un appart, bon, on a tous vu des émissions de télé où ils font les tests entre un nom de famille à consonance arabe ou un nom de famille à consonance française, Dupont, Durand.
Denis Barret.
C'est terrible.
Et Moreau. Ouais, Moreau, toi, t'as pas dû avoir trop de soucis.
Moreau, c'est le 5e ou 6e nom le plus répandu en France.
Ouais. Ouais, Denis, ça doit pas être moins. Bon, c'est du tout venant. On va dire, on a des noms comme ça. Bon,
alors qu'Hermel, il y en a pas beaucoup.
De quoi? Hermel? Non, Hermel, c'est un peu plus original.
Il y a 350 personnes.
Je saurais pas déceler l'origine de Hermel. Est-ce que c'est bourgeois? Est-ce que c'est pas bourgeois?
C'est pas bourgeois, mais j'ai découvert que c'était yiddish.
Ouais, j'allais te dire que c'était un peu ashkenaz.
Le meunier en yiddish.
D'accord. Écoutez, on en apprend tous les jours
Dans
cette émission.